Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel, dans 30 minutes, vos réactions et vos témoignages face à l'avancée des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La ville stratégique de Kanyabayonga est tombée. Ensuite, d'autres localités sont également passées sous le contrôle de ce mouvement armé soutenu par le Rwanda. Samedi soir, vous qui êtes sur place en RDC, vous avez certainement suivi le discours à la nation du président Félix Tshisekedi. Tshisekedi, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le chef de l'État a affirmé avoir donné des instructions claires et fermes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Alors, quelle doit être désormais la riposte des autorités? Comment expliquer cette progression des rebelles? Vous nous appelez, on a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70 et vos commentaires que j'ai déjà sous les yeux postés sur nos réseaux sociaux. On a des réactions d'Ovira, de Kisangani, de Bukavu, de Goma, de Calémier, de Boutembo. Merci à tous en tout cas de nous suivre, de votre fidélité et de votre confiance. Vous aurez la parole dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Françoise. Bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez, bonjour à toute l'équipe d'appel sur l'actualité.
Et merci de nous écouter au Gabon, vous êtes à Ouyem et vous avez des questions sur le Kenya et la contestation anti-gouvernementale qui a secoué le pays ces deux dernières semaines.
Effectivement, le président William Ruto a annoncé retirer le projet de loi de finances qui fait polémique, mais les manifestations se sont poursuivies. J'ai deux préoccupations. Pourquoi les jeunes continuent-ils à se mobiliser? Ont-ils d'autres revendications?
Bonjour Gaëlle, Alex.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante permanente de RFI à Nairobi. Visiblement, l'annonce du retrait de cette très controversée loi ne semble pas satisfaire la plupart des jeunes.
Oui, en effet, Juan, la jeunesse continue à se mobiliser. Il y a d'ailleurs un appel à manifester aujourd'hui.
Ah, on a déjà perdu Gaël Lalex. On va essayer de rétablir évidemment très très vite la liaison avec la capitale kényane où Gaël nous le disait à l'instant, un appel à manifester a été lancé aujourd'hui même, ce qui confirme votre interrogation, Françoise. Pourquoi les jeunes continuent à sortir, à se mobiliser, à vouloir exprimer leur mécontentement? Françoise, vous êtes toujours avec moi et avec nous?
Oui, je suis avec vous.
On rétablit la liaison avec Gaëlle Lalex. Alors, on me dit qu'on a retrouvé Gaëlle. Gaëlle, vous nous disiez qu'il y avait un appel à manifester aujourd'hui même.
Oui, absolument. Les jeunes ont publié une sorte de calendrier d'action jusqu'à dimanche où une nouvelle mobilisation dans la rue est demandée. Alors, on peut dire, Juan, que le mouvement, en réalité, a changé de nature. Il s'agissait d'abord de rejeter la loi de finances. Maintenant, c'est un bras de fer entre la jeunesse et William Ruto. Elle demande sa démission. D'ailleurs, le hashtag Ruto must go, Ruto doit partir, est devenu aujourd'hui celui du ralliement sur les réseaux sociaux.
Alors, expliquez-nous, Gaëlle, pourquoi la jeunesse demande maintenant le départ du président, puisque ce dernier les a quand même entendus, il a annoncé le retrait de cette loi.
Eh bien, parce que William Ruto représente à leurs yeux l'incarnation d'un système politique vicié, corrompu. Les jeunes revendiquent un changement générationnel, un nouveau système politique et surtout de nouvelles élites. Et puis, il y a aussi, Juan, la question fondamentale de la répression policière des manifestations. Lors d'un grand entretien avec des journalistes sur trois télévisions kényanes dimanche soir, William Ruto a encore contesté le bilan des organisations de la société civile. La Commission nationale kényane pour les droits de l'homme estime que 39 personnes ont été tuées par la police. William Ruto, lui, en reconnaît 19 qu'il a qualifiées de criminels, profitant de la mobilisation pour se livrer à la casse et au pillage. Des propos, évidemment, qui ont remis de l'huile sur le feu et qui pourraient bien vraiment relancer la mobilisation.
William Ruto qui a donc déclaré lors de cet entretien ne pas avoir de sang sur les mains. Vous avez une autre question, je crois, Françoise?
Oui. Le président peut-il légalement retirer cette loi, pourtant votée à l'Assemblée nationale?
Alors, vos explications, Gaëlle?
Alors techniquement, il ne la retire pas. Il refuse de la signer. Il doit donc la renvoyer à l'Assemblée nationale pour révision, expliquant ses réserves. Cela, William Ruto l'a fait dès jeudi, en recommandant l'annulation de toutes les clauses de la loi. Les parlementaires doivent maintenant étudier ces recommandations. Alors, ce qui inquiète les manifestants, c'est que l'Assemblée nationale est suspendue jusqu'au 23 juillet. C'est la trêve parlementaire annuelle. Mmh. Mais l'Assemblée nationale a confirmé que le retrait de la loi serait à l'ordre du jour de la session de reprise. William Ruto dispose de la majorité absolue au Parlement. Il a d'ailleurs dit lors de son discours que sa position sur le retrait de la loi était aussi celle des députés. Il n'y a donc vraiment aucune raison que le texte soit maintenu.
En tout cas, nouvel appel à manifester aujourd'hui même. On vous libère, Gaëlle Lalex, puisque vous allez voir ce qu'il se passe effectivement sur le terrain, voir si la mobilisation est toujours très importante. Et on vous retrouvera certainement dans Afrique Midi tout à l'heure, à partir de 12h30, temps universel. Merci Gaëlle Lalex. Françoise, bonne journée à OIM.
Merci à vous également.
Merci beaucoup. Il est 10h17 à Paris. Plusieurs questions après le premier tour des élections législatives anticipées en France. Valérie Gasse et Pierrick Bonneau du service politique de RFI nous ont rejoints. Soyez les bienvenus. Bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour.
Avec un premier auditeur qui est au Liberia. Bonjour, Alceni.
Oui, M. Gomez, bonjour.
Soyez les bienvenus. Nous vous écoutons.
Merci. Comment expliquer que le Rassemblement national et gagner autant de voix par rapport aux élections législatives en 2022.
Alors, Pierrick Bonneau, c'est vrai que c'est un record de voix pour le Rassemblement national. J'ai noté 10 628 000 voix. C'est ça ?
Vous avez bien noté, ouais, 10 600 000 voix. Alors, on compte dans ces 10 600 000 l'alliance globale entre l'ERN et les quelques LR qui ont suivi le parti de Jordan Bardella. L'ERN seul, c'est 9 400 000 voix. Mais c'est déjà énorme, c'est plus de deux fois plus d'ailleurs qu'en 2022, où le Rassemblement national avait obtenu au premier tour des législatives 4 250 000 voix. Alors pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que la participation a été particulièrement élevée dimanche dernier. 67% d'électeurs français sont allés aux urnes. C'est un record depuis 1997, la dernière dissolution de l'histoire de la Ve République. Le premier tour de 2022, c'était 47% de participation. Ça fait donc 20% d'électeurs en plus qui sont allés voter. Donc ça, c'est un premier élément qui explique mathématiquement que plus de votants égale plus de voix pour le Rassemblement national et pour tout le monde. Mais ça ne suffit évidemment pas à expliquer ces 10 millions de voix si on ne prend que les bulletins du RN. Alors, il y a une dynamique incontestable du parti depuis maintenant plus de 10 ans. Marine Le Pen et Jordan Bardella récoltent en fait depuis quelques années, et particulièrement dimanche dernier, les fruits de ce qu'on a appelé la dédiabolisation, la normalisation du parti.
Un peu partout en France, sauf dans les grandes métropoles.
Qui résiste encore, oui. Mais pour combien de temps ? On sait notamment qu'à Paris, le Rassemblement national, par exemple, est qualifié pour le second tour dans le 16e arrondissement de Paris.
Un seul candidat,
mais c'est la première fois. Oui. Et on constate globalement que dans chacune des circonscriptions, ça pousse du côté du RN. Et puis, il y a aussi un dernier phénomène qui est lié au calendrier électoral. C'est important et peut-être essentiel dans ce cas-là. Depuis l'instauration du quinquennat en 2002, les législatives arrivent juste après la présidentielle, oui. Et viennent confirmer le vote des Français. Et bien là, c'est différent depuis que Emmanuel Macron a annoncé cette dissolution. En fait, on arrive juste après les européennes et finalement, ce premier tour, ça vient confirmer aussi les résultats des européennes où le Rassemblement national avait fait un très gros score.
Allez, on repasse au standard avec une autre question. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour, monsieur Van, bonjour à toute l'équipe.
À Kinshasa, on vous écoute avec Valérie Gasse et Pierrick Bonneau.
Alors, les camps présidentiels arrivent en troisième position du scrutin, les privant ainsi la majorité à l'Assemblée. J'ai des questions, M. Van.
Allez-y.
Quelle est sa stratégie pour le deuxième tour ? Et appelle-t-il à faire barrage au Rassemblement national ?
Alors, Valérie Gasse, depuis dimanche soir, les appels se multiplient pour empêcher l'extrême droite d'obtenir la majorité absolue. Quelle est la stratégie du camp présidentiel ? Puisqu'on a comme l'impression qu'au sein même du camp présidentiel, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde.
En tout cas, c'est une question épineuse, celle de cette stratégie pour le second tour. Et donc, qui est liée, celle du barrage républicain face au RN. À une époque, en 2002, quand Jean-Marie Le Pen avait été qualifié pour le deuxième tour de la présidentielle, la réponse à la question elle avait été évidente pour tout le monde. Les intérêts partisans étaient laissés de côté et le Front républicain avait été unanimement soutenu et suivi. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, l'eau a passé sous les ponts et comme le disait Pierrick tout de suite, Marine Le Pen a réussi la dédiabolisation de son parti. Le RN fait moins peur et aux Français, les partis reprennent un peu leurs droits du coup. Alors dans le discours de l'ex-majorité, oui, le parti du président appelle à faire barrage au Rassemblement National. C'est ce que Gabriel Attal a dit dimanche soir, pas une voix pour le RN, avec même un désistement des candidats de l'ex-majorité en cas de troisième place dans ces fameuses triangulaires, ces combats à trois au deuxième tour, où le candidat RN pourrait gagner. Mais en précisant tout de même que le candidat, souvent de gauche, concerné par ce désistement, devait faire partie des forces républicaines. Cette petite précision ouvre la porte forcément à des exceptions pour les socialistes, on va le dire, pour les écologistes, peut-être même les communistes qui font partie de l'Alliance des partis de gauche, le nouveau Front populaire, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est différent pour la France insoumise, contre laquelle la coalition présidentielle a fait campagne au premier tour, en la qualifiant d'extrême gauche.
Oui. Donc en fait, il n'y a rien de totalement systématique dans la consigne de désistement.
Non, et même si dans l'entourage du chef de l'État, on dit, regardez, on s'est désisté dans la circonscription de François Ruffin, député sortant LFI de la Somme. Oui, mais alors François Ruffin, justement, c'est le contre-exemple parfait. Il a pris ses distances avec Jean-Luc Mélenchon, qui est la cible de la vindicte de l'ex-majorité, le symbole de la radicalité renvoyée dos à dos avec le RN. Il y a donc des candidats plus ou moins repoussoirs à LFI. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les divisions vont être les désistements, les décisions sur les désistements vont être prises au cas par cas, dans chaque circonscription, en fonction de la situation politique locale, pas seulement du message national. Et les candidats auront aussi forcément leur mot à dire, on voit que certains grognent. Et puis il y a le message du président, du premier ministre, le président qui, dans les derniers jours avant le scrutin, a semblé cibler à nouveau uniquement le Rassemblement National plus que LFI. Et puis il y a d'autres voix dans la coalition présidentielle et on a entendu par exemple l'ancien premier ministre Édouard Philippe qui lui n'a pas eu de pudeur de gazelle, pour reprendre l'expression chère à Jean-Luc Mélenchon. Il a dit pour le second tour, ni RN ni LFI, le fameux Nini, donc pas de Front républicain dans sa version originale. Et il n'est pas le seul dans la majorité. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, par exemple, est sur la même ligne. François Bayrou n'en est pas loin. On saura définitivement à quoi s'en tenir ce soir. Les candidats ont jusqu'à 18h pour déposer leur candidature.
18h, heure de Paris. En tout cas, à gauche, il y a unanimité. Retrait des candidats arrivés en troisième, là où le Rassemblement National est en tête. Et les Républicains, quant à eux,
pas de consigne de vote.
Chacun est suffisamment grand pour voter qui il souhaite. C'est ça.
Ça risque de se terminer comme ça quand même, quelles que soient les consignes et les désistements dans les urnes dimanche soir.
On repasse au standard. Tiens, une question certainement pour vous, Pierrick Bonneau. Bonjour Joseph.
Bonjour Juan.
On vous écoute. Allô Joseph.
Eh bien, je vais parler du triangulaire. C'est la première fois que j'entends parler du triangulaire. Alors, dans quel cas il y a triangulaire au second tour?
Alors, Valérie Gaz, vous l'évoquez à l'instant, triangulaire, ce sont trois candidats au second tour, Pierrick Bonneau.
Quadrangulaire, quatre candidats, parce qu'il y a aussi des quadrangulaires, très peu, mais il y en a aussi cette semaine. Alors, pour se qualifier au second tour, en fait, la règle, elle est très simple. En France, il faut avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre d'électeurs inscrits. Donc, tous les candidats qui ont obtenu plus de 12,5% des électeurs inscrits sont qualifiés. Ça donne donc, dans certaines circonscriptions, trois candidats, dans d'autres, quatre. Donc là encore, l'explication principale, elle est dans la participation. Vu qu'il y a plus de d'électeurs qui sont allés voter, eh bien mathématiquement, il y a plus de candidats qui ont fait 12,5% des électeurs inscrits.
Dimanche soir, il y avait potentiellement 306 triangulaires. Depuis, il y en a moins, puisqu'effectivement, on en parlait à l'instant avec Valérie Gasse.
Moins de la moitié, oui. Ouais.
Il y a des désistements. Il y a
déjà près de 200 désistements.
Pas loin de 200 candidats qui ont décidé de se
beaucoup de gauche,
désister. Effectivement. On a dit l'essentiel sur
on
les triangulaires. Voilà, je pense. C'est clair, Joseph, pour vous? Les triangulaires ?
Oui, oui, c'est très clair.
Ah bah voilà, bah remerciez Pierrick Bonneau et Valérie Gasse. Je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Un grand merci à Joseph et vous tous qui nous écoutez. Si vous avez évidemment des questions pour mieux comprendre le paysage politique français, les enjeux, les programmes des uns et des autres, surtout n'hésitez pas, appelez-nous 33 9 693 693 70. Qui avons-nous au standard ? Abdourahman nous rejoint, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Abdourahman, vous êtes en Guinée et vous avez des questions après la mort, dans des circonstances troublantes, de l'ex numéro 2 de la junte guinéenne.
Oui, merci beaucoup Juan Gomez. Adiba Koulibaly est mort en cellule alors qu'il venait d'être condamné par le tribunal militaire de Conakry à 5 ans de prison. Dans quelles circonstances est-il mort ? L'ex-général était détenu dans un lieu inconnu. Sait-on pourquoi ?
Alors, dans quelles circonstances est-il mort ? Sidi Yansané, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Abdourahman.
Journaliste au service Afrique du RFI, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre hein, autour de la mort du colonel Koulibaly. On va peut-être revenir en quelques mots sur le parcours de l'ancien général.
Effectivement Juan Abdourahman, il était originaire de Mandiana, un pays malinqué. C'est un militaire de carrière formé en Guinée, au Gabon, aux États-Unis, où il a fréquenté l'école de guerre et de commandement de l'armée américaine. Au moment du putsch mené le 5 septembre 2021 par le colonel d'alors et actuel président de transition Mamadi Doumbouya, Koulibaly commandait le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix qui forme des casques bleus. Très vite, il s'impose comme le numéro 2 de la junte du CNRD, ce qui fait de lui il parlait parfois d'ailleurs au nom de Doumbouya, oui. Ce qui fait de lui lorsqu'il est bombardé chef d'état-major général des armées, l'un des hommes les plus puissants du pays.
Et seulement voilà, en mai 2023, les relations avec le président Doumbouya se gâtent.
Oui, hein, le général Koulibaly est démis de ses fonctions, il est envoyé à Cuba comme chargé d'affaires de la Guinée, ce qui est vu comme une sanction. Il reste un an et puis il revient en Guinée début juin, il y a un mois, mais sans prévenir sa hiérarchie, ce qui lui vaut d'être arrêté puis condamné à 5 ans de prison ferme pour détention et pour désertion et détention illégale d'armes. Lui affirme être revenu pour discuter avec le président Doumbouya des mauvaises conditions de travail à Cuba. Mais 10 jours plus tard, le procureur militaire annonce sa mort suite à un arrêt cardiaque dû, je cite, hein, à un psychotraumatisme et un stress prolongé sans plus d'explication. Il sera enterré 3 jours après cette annonce dans son village de Magali-Faraba.
Voilà ce qu'on sait à l'heure actuelle sur les circonstances de la mort de l'ex-général. Il était, comme le rappelait Abdourahman, notre auditeur, il était détenu dans un lieu inconnu.
Oui, c'est ça, Juan. C'est que, hormis la mort soudaine du général Sadiba Koulibaly, rétrogradé colonel suite à sa condamnation, le lieu de détention fait partie des grandes zones d'ombre de cette affaire. Les avocats du haut gradé affirment que leur client n'était ni à la maison centrale de Conakry, hein, la prison principale, ni dans aucun lieu de détention officiel. Ils l'ont vu pour la dernière fois à la gendarmerie nationale, exactement à la direction centrale des investigations judiciaires, où il a été conduit à l'issue de son procès, puis ils n'ont plus eu accès à lui. Sur RFI, Maître Lansiné Diabaté a souligné que le militaire était pourtant bien portant et serein avant sa disparition. Autre zone d'ombre, le procureur militaire annonce que l'ex-général est mort le 22 juin, mais il précise dans le même communiqué aussi que le certificat de décès n'a été signé que 2 jours plus tard par le chef du service médecine légale de l'hôpital Ignace Dine. Aucune explication sur les circonstances de sa mort, sur le lieu de détention ou le lieu de décès. L'avocat Maître Diabaté soutient en tout cas que sa dépouille ne montrait ni trauma ni sévices. Le barreau de Guinée est sorti de sa réserve. Il exige une enquête indépendante et demande au procureur militaire de révéler le lieu de détention du colonel Koulibaly. Et le barreau condamne également, je cite, des pratiques que le peuple de Guinée croyait à jamais révolues.
Voilà un sujet très commenté à Conakry et un peu partout en Guinée. D'ailleurs, très vite, vous avez souhaité réagir puisque vendredi, dans la libre antenne, plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion de réagir donc à la mort dans des circonstances troublantes de l'ex numéro 2 de la junte guinéenne. Abdourahman, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, thank you, thank you. Merci Juan Gomez, merci Sidi Yansané.
Eh bien, bonne journée à vous, Abdourahman. À très
bonne
vite.
Bonne journée, Abdourahman.
Sidi Yansané, journaliste au service Afrique de RFI. Des explications à réécouter à tout moment, évidemment, sur l'application RFI Pure Radio. Vous avez des questions sur l'actualité, surtout ne restez pas dans le doute. Appelez-nous, le standard est ouvert toute la journée. 33 9 693 693 70. D'ailleurs, on a besoin de connaître vos questions, évidemment, avant de démarrer l'émission. Ça nous permet de contacter nos experts qui nous rejoignent, comme ce fut le cas ce ce matin avec Sidi Yansané, Valérie Gasse, Pierrick Bonneau, de contacter nos correspondants. Gaëlle Lalex, elle était avec nous, correspondante permanente de RFI à Nairobi, en début d'émission. Et vous nous envoyez également vos questions sur nos réseaux sociaux, Facebook ou WhatsApp. À suivre dans un instant la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après avec vos réactions sur la RDC et l'avancée du M23, les rebelles qui gagnent du terrain, qui ont pris d'ailleurs plusieurs villes ces derniers jours. On en parle dans tout juste 10 minutes.